Juste avant de commencer, un petit message pour des ados. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Vous devrez être en haut avec Alma, qui remplace Benoît Fortin. Alors, bon matin à vous tous. Merci, Johan et toute son équipe, pour ces très beaux chants qui toujours nous réchauffent le cœur, qui nous encouragent, qui nous préparent pour le ciel. Ça va être toute une chorale. Alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 9. Et nous allons lire notre texte ce matin, ce sont les versets 32 à 38. Et juste pour vous remettre un peu dans le contexte, le livre de Néhémie est un livre qui parle d'un réveil. Chapitre 1 à 7 nous parle de la reconstruction physique et matérielle des murailles de Jérusalem, la ville de Dieu. Et les chapitres 8 à 13 nous parlent de la restauration spirituelle d'Israël, le peuple de Dieu. Une restauration qui est passée par la parole de Dieu, le jeûne et la prière, et nous sommes maintenant rendus au chapitre 9. Une prière de confession où Israël s'humilie devant Dieu. Est-ce qu'on peut juste reculer deux diapos, s'il vous plaît? Difficile d'avoir la tête, en tout cas. Alors, les versets 1 à 31 nous focalisent, comme nous avons vu la dernière fois, sur la bonté de Dieu envers Israël, malgré sa rébellion répétitive. Et ce matin, nous allons considérer les versets 32 à 38, qui focalisent sur la justice de Dieu dans ce même contexte. Alors, vous savez que la Bible déclare maintes et maintes fois que Dieu est juste. Simplement dit, c'est que Dieu agit toujours correctement dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et là, vous allez voir, on est un petit peu en retard, nous avons vu cela la dernière fois, à la bonté de Dieu. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, « God is good all the time », Dieu est bon en tout temps. Mais aussi, Dieu est juste. Et comme Dieu nous a dit, c'est le verset qui nous concerne ce matin, nous parle de la justice de Dieu. Et la Bible déclare que notre Dieu est juste. Il agit correctement. Et aussi, quand il dit quelque chose, c'est toujours selon sa parfaite justice. Il est toujours droit. Il agit correctement, il est toujours intègre. Et juste pour nous ramener dans le contexte, la parole de Dieu déclare ceci dans Deutéronome 32, verset 4, en parlant de Dieu et la justice de Dieu. « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Et aussi dans Psaume 119:137, tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables, tu fondes tes préceptes sur la justice. Alors la Bible est catégorique là-dessus, il n'y a pas de doute, la Bible déclare que Dieu est juste. Mais la question que nous devrions nous poser, en sommes-nous convaincus? Vous savez, nous vivons dans une société avec son arrière-plan catholique, où nous entendons souvent parler du bon Dieu. Mais rarement nous allons entendre parler du juste Dieu. Nous vivons parmi les gens qui veulent bénéficier des bontés de Dieu, mais qui sont frileux quand il s'agit de la justice de Dieu. Et pire encore, souvent Dieu est mis au banc des accusés, où il est accusé, écoutez bien, d'injustice. Si Dieu est bon, nous entendons souvent, où était-il quand je suis tombé malade? Pourquoi est-ce qu'il a permis que j'ai perdu mon emploi? Ou que j'ai perdu un être cher? Et j'en passe. Et ça, c'est des choses que nous avons dans le monde. Mais ce matin, j'aimerais vous conscientiser que ça peut aussi exister, malheureusement, dans l'Église. En sommes-nous convaincus? Sommes-nous convaincus? Pouvons-nous dire avec le psalmiste, psaume 45, 17, l'Éternel est juste, pas dans quelques-unes, mais dans toutes ses voies. Et si on ramène ça de façon même plus personnelle, depuis que vous êtes chrétien, êtes-vous convaincu que Dieu a toujours été juste avec vous? Alors, Néhémie 9, 32 à 38 nous aide à répondre à ces questions. Et pour cela, nous allons lire notre texte. Alors, commençons au verset 32. Et maintenant, notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces ta miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple. Depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande angoisse. Et pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites, et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Alors voilà notre texte pour ce matin, dont le thème principal est « Nous bénéficions des riches bénédictions de Dieu, mais quand nous embrassons tout d'abord la justice de Dieu. » Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous quelques aspects de la justice de Dieu. Alors, dans un premier temps, reconnaître la justice de Dieu, que Dieu est juste, qu'il a été juste dans tout ce qui est arrivé à Israël, exalte Dieu. Et cela déclare que sans l'ombre d'un doute, pour Israël, Dieu est souverain. Et si vous regardez votre texte encore au verset 32, vous allez voir comment est-ce que Israël maintenant va déclarer cette souveraineté. Au verset 32, nous lisons ceci. « Et maintenant, ô notre Dieu croit grand, notre Dieu puissant, notre Dieu redoutable. Tu as été juste, oui, dans tout ce qui nous est arrivé, parce que nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que tes voies ne sont pas nos voies. Nous reconnaissons que tes pensées sont infiniment élevées au-dessus de nos pensées. » Ésaïe 55, 8, 9. « Nous reconnaissons que tu es grand et que ton intelligence n'a point de limite. » Psaume 147, 5. Alors, dans tout ce qui nous est arrivé, nous reconnaissons derrière cela ta sagesse et ton intelligence infinie. Israël aussi, continue, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé parce que nous reconnaissons aussi ta puissance. Dieu grand, mais Dieu aussi puissant. Tu es le Dieu qui peut tout. Et rien ne s'oppose à tes desseins. Ça, c'est Job 42:2. Tu es le Dieu qui est puissant par sa force. Psaume 147:5. Alors, dans tout ce qui nous est arrivé, nous reconnaissons également que tu étais parfaitement et totalement en contrôle. Et le troisième point, Israël aussi va déclarer que Dieu est le Dieu redoutable. Et parce que tu es grand, Dieu, Israël déclare, parce que tu es puissant, parce que tout ce qui nous est arrivé est en parfaite harmonie avec ta justice, nous n'osons pas te critiquer. Nous n'osons pas te critiquer en te demandant qu'est-ce que tu fais ou où étais-tu quand. Au contraire, nous reconnaissons que tu es aussi le Dieu redoutable, celui à qui révérence et respect est dû. Et nous te les donnons en déclarant haut et fort, tu es juste, tu as été juste. Et puisque tu ne changes pas, tu seras toujours juste. Voilà. Mais reconnaître que Dieu a été juste dans tout ce qui est arrivé à Israël, ça exalte Dieu. Mais aussi, ça l'exalte comme souverain, mais aussi comme sauveur. Et vous savez, Dieu nous sauve de la pénalité du péché. Nous avons des beaux textes dans Jean, chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous par cœur. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, sauvé de la pénalité du péché. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous sauve de la pénalité du péché. Mais Dieu aussi s'engage à sauver son peuple du pouvoir du péché, ce péché qui nous enveloppe si facilement et qui aussi a si facilement enveloppé la nation d'Israël. Et comment a-t-il fait cela? Mais il fait deux choses. Il nous laisse subir les conséquences de nos actes. Galates 6, 7 nous dit ceci, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et Dieu aussi nous corrige quand nous errons loin de ses voies. Hébreux 12, 6 nous dit ceci, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Un bon papa qui aime ses enfants, Dieu aussi va les corriger. Alors, Israël a subi une correction. Ils ont été amenés en captivité pendant 70 ans. Et Dieu maintenant cherche à ramener Israël dans le droit chemin et le sauver justement du pouvoir du péché qui les faisait toujours s'éloigner de lui. Mais à travers cette correction qu'il avait donnée à Israël, il a été juste. Pourquoi? Parce qu'il avait été fidèle. Il avait gardé son alliance. Il avait fait une alliance avec Abraham. Il avait promis à Abraham avec serment de donner à ce peuple-là un pays. Il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Et Dieu avait gardé son alliance. Il avait persévéré avec Israël. Voilà sa justice. Et aussi, il a été juste envers Israël en étant fidèle à son alliance, mais aussi, il a été miséricordieux. Même s'il fallait qu'il les corrige à cause de leur désobéissance, dans sa grande miséricorde, la parole nous dit qu'il ne les a pas anéantis. Il s'est souvenu, nous avons entendu ça ce matin, d'Israël, Psaume 103, quel beau texte. Dieu s'est souvenu de quoi Israël était formé. Il s'est souvenu que son peuple n'était que poussière. Et même dans la correction, sa miséricorde était là, justement, pour ne pas les détruire, les anéantir. Il ne nous a pas donné ce qu'ils méritaient. et a été miséricordieux envers son peuple. Alors, ça, c'est le Dieu d'Israël. Notre Dieu aussi, et ça, c'est l'application de la justice de Dieu. Il est souverain, il est en contrôle, il est sauveur, il nous sauve du pouvoir du péché quand nous errons loin de lui, mais il reste fidèle et miséricordieux à travers cette correction. Et quand nous reconnaissons la justice de Dieu, et quand nous saisissons l'implication de cela, mais là nous pouvons aussi en faire une application. Verset 32 nous dit ceci, nous avons la seule requête dans toute cette prière de confession où Israël maintenant va tourner vers Dieu. Au lieu de le blâmer, au lieu de l'accuser, au lieu de critiquer, Israël va se jeter sur les compassions de Dieu et va lui dire, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons implorées, éprouvées. Nous reconnaissons ta justice, tu as été juste dans ce qui nous est arrivé, nous te donnons raison, mais Dieu ait pitié de nous. Tu es souverain, tu es sauveur, mais montre-nous maintenant tes sympathies. Et il faut qu'il en soit ainsi. Nous n'allons jamais connaître les compassions de Dieu si nous ne reconnaissons pas toujours et tout d'abord la justice de Dieu. Et vous avez un exemple dans le psaume 51. Ça a été aussi mentionné ce matin. David, quand il a commis ce meurtre et adultère, et Dieu va le corriger. Dans psaume 51, il va lâcher un cri de cœur. Il va dire à Dieu, il va aller dans la présence de Dieu, « Oh Dieu, aie pitié de moi. » Il implore les compassions de Dieu, mais il reconnaît aussi la justice de Dieu, parce que dans le même psaume, il va dire ceci, « Je fais ce qui est mal à tes yeux. » En sorte que tu seras juste, vous voyez, il n'accuse pas Dieu. Tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Reconnaître la justice de Dieu mène au chemin de ses compassions. Et peut-être ce matin, je fais une application en chemin faisant. Il peut y avoir quelques-uns parmi nous ou quelqu'un qui vivent dans le péché. Et qui, comme David, vous êtes sous la correction de notre Dieu. Parce que Dieu vous aime trop pour vous laisser aller dans cela. Et vous pouvez dire avec David, « Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » David, il connaissait justement la main pesante de Dieu sur lui à cause de ses péchés. Et si tel est votre cas, je vous implore de n'endurcissez pas votre cœur. Donnez raison à Dieu. Reconnaissez qu'il est juste dans tout ce qui vous arrive. Confessez votre péché en vous humiliant sous ta main puissante. Implorez son pardon, sa miséricorde, sa grâce et surtout ses compassions. Que vous puissiez dire comme David, 2 Samuel 24, 14, ou est-ce que David est encore dans le pétrin, qu'est-ce qu'il va dire ceci? Au tombant entre les mains de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ses compassions sont immenses. Deuxièmement, reconnaître la justice de Dieu exalte Dieu, mais aussi expose le péché. Expose le péché. Et là, nous avons une belle attitude ici de la part d'Israël, dans le texte que nous venons de lire, où Israël ne cherche pas à camoufler le péché, ou de le minimiser, ou de le déguiser, ou de l'excuser, ou de nier. Israël accepte sa pleine responsabilité et va déclarer catégoriquement, « Nous avons fait le mal !» J'aimerais que vous remarquiez le « nous ». Cette prière est faite par les hommes de Dieu, les Lévites, les hommes qui sont intègres et droits. Mais à cause du fait que Dieu voit la nation comme un, le péché de l'un devient le péché de tous, et vice-versa. Nous avons aussi le même principe dans Daniel chapitre 9, une autre prière de confession, où Daniel, un homme intègre et droit, est devant Dieu, et il dit la même chose, « Nous avons péché. » Il va confesser, il ne dit pas « je » puis « il », il va dire « nous » parce que Dieu voit encore la nation comme eux. Et notre Dieu, dans ce texte que nous avons, est juste dans tout ce qui est arrivé à Israël, une justice qui expose le péché, en soulignant justement la gravité du péché et la gravité des conséquences du péché. Et tout d'abord, la gravité d'Israël est démontrée par la désobéissance. Le verset 34 va nous dire ceci, « Nos chefs, nos rois n'ont point observé ta loi, n'ont pas été attentifs ni aux commandements et ni aux avertissements. » Mais j'aimerais vous remarquer deux choses. Puisque Dieu est un Dieu de vérité, sa loi, ses commandements, sa parole qui émane de lui sont aussi vérité. Psaume 31, 6 nous dit ceci, « Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. » Psaume 119, 150 dit ceci, « Tous tes commandements sont la vérité. » Alors, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec la vérité? Mais la vérité devrait être obéie, n'est-ce pas? Et ne pas obéir à la parole de Dieu, à traiter comme cette parole n'était pas la vérité, revient à traiter Dieu comme un tas. Parce que la parole émane de Dieu, et Dieu est véridique, sa parole est véridique. Mais si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous traitons la parole de Dieu comme si elle n'était pas vraie, parce que la vérité devrait être toujours obéie. C'est la vérité. Et si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si Israël n'obéissait pas dans ce contexte à la parole de Dieu, c'est comme si Israël aussi traitait Dieu comme mental. C'est pourquoi c'est grave, la désobéissance, et surtout la désobéissance flagrante. Et ça nous ramène exactement dans Genèse chapitre 3, et c'est là que ça a commencé. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève, « Vous mourrez certainement, et Satan est venu. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité Dieu comme mentant. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, il a dit quoi? Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Et Adam et Ève ont justement cru au mensonge. Ils ont désobéi, mais derrière la désobéissance, le fait qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu, c'est une attaque directe à la véracité de Dieu. C'est comme s'ils traitaient Dieu comme mentant. Et ça, c'est grave. Deuxièmement, le péché est grave parce que ne pas obéir à Dieu conduit inévitablement à ne pas le servir. Si on n'obéit pas à Dieu, on ne le sert pas. Et c'est ce que le texte nous dit au verset 35, « Ils ne t'ont point servi. » Mais vous savez, quelqu'un a dit, bien dit, on sert tous quelque chose ou quelqu'un. Et ne point servir Dieu va revenir à servir quoi? Ça va revenir à servir les idoles. Que ce soit moi-même, mon idole, ou quelqu'un d'autre, ou le pouvoir, le plaisir, le prestige, on va servir quelque chose. Et en faisant cela, nous sommes coupables du premier commandement, où est-ce que Dieu a dit à Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » On devient justement idolâtre. Et troisièmement, péché est grave, parce que désobéissance, idolâtrie, mais aussi ça conduit à l'esclavage. Israël gémit ici dans l'esclavage, nous voici esclaves. Et dans cet esclavage, ils vont énumérer justement les souffrances qu'ils sont en train de vivre, une souffrance terrible pour Israël. Tout d'abord, ils vont manquer les bénédictions de Dieu, verset 36, le pays que Dieu leur avait donné pour combler leurs besoins, multiplient ses produits pour les rois étrangers. Ils ne sont plus maîtres chez eux. Ils vont dire ceci, ces rois dominent à leur gré sur nos corps et notre bétail. Et ils vont dire aussi, nous sommes dans une grande angoisse. Mais quelle attitude ici de cœur brisé est contrit, révélée par le texte devant la justice de Dieu? face à la justice de Dieu et face à la correction que Israël avait subie, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est une prière de confession. Et ça, c'est une bénédiction, bénéfice qui découle. Justement, quand nous reconnaissons la justice de Dieu, ça nous amène sur le chemin de la confession. Et j'aimerais vous montrer ce matin l'autre côté de la médaille, parce que c'est important. Peut-être ce matin, ici, vous pouvez me dire, mais écoute, je ne vis pas dans le péché. Je suis clean, comme on dit en bon québécois. Je lis ma Bible régulièrement. J'ai une vie de prière. Je confesse mes péchés quand le Saint-Esprit me fait signe que j'ai l'attristé. Et pourtant, ce matin, je me trouve dans une situation difficile. Je ne le dis pas à haute voix, mais dans mon cœur, je pense, je ne mérite pas cela. Ce n'est pas juste. Je trouve difficile d'imiter Job quand il a reçu, pas une brique, mais plusieurs briques sur la tête, a dit ceci. En tout cela, Job ne péchait pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et ce matin, probablement, peut-être vous le trouvez difficile à dire, comme Israël, à Dieu, tu as été juste dans tout ce qui m'est arrivé, ou bien ce qui m'arrive en ce moment même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment dealer avec une telle situation? J'aimerais vous dire que le plan de Dieu pour vous et pour moi et pour tous ses enfants, ce n'est pas tout d'abord de nous rendre heureux. Il faut bien comprendre cela. Mais le plan de Dieu pour vous et pour moi, c'est de nous rendre saints. En anglais, on dit souvent, God seeks to make us holy, not happy. Saint, c'est pas, il focalise pas sur le côté de nous rendre heureux, mais plutôt saint. Et Romains 8, 29 nous dit ceci, ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être quoi? Semblable à l'image de son Fils. Et si nous sommes honnêtes ce matin, si nous sondons nos propres cœurs, comme encore une fois ça a été rappelé ce matin, il faut admettre que nous sommes loin, loin, même très loin de cette image que Dieu a pour nous, de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et pourquoi? C'est à cause du péché. Et ce n'est pas tellement parce que nous sommes coupables du péché, que nous avons commis des péchés, mais c'est plutôt que nous sommes contaminés par le péché. Ce n'est pas tellement le péché qui est sur nous, mais c'est le péché qui est en nous. Et qu'est-ce que Dieu fait? À cause du fait que nous ne ressemblons pas à son idéal de ressembler à son Fils, il permet des choses difficiles d'arriver dans notre vie. Des épreuves, la souffrance, pour exercer notre foi, pour développer notre patience, pour augmenter notre amour, pour subjuguer la chair, pour produire en nous le caractère de Jésus-Christ à travers cette situation difficile. Et vous savez, c'est une grâce. Ça, c'est un honneur que Dieu nous permet de lui ressembler dans un attribut qui le caractérise, sa sainteté. Quel honneur! Et ça, c'est la justice de Dieu à son comble. Même en nous faisant passer par des moments difficiles, c'est encore la justice de Dieu à son comble. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu nous avait créé à son image et à sa ressemblance. Et nous l'avons perdu à cause du péché. Et voilà, Dieu cherche à restaurer cette image en nous. Il aurait pu nous restaurer à quelque chose d'inférieur. Mais Dieu dit non, je veux le top pour vous. Et je veux permettre des choses dans votre vie pour vous aider, si vous l'acceptez par la puissance de l'Esprit, de ressembler à mon Fils. Voilà. La justice de Dieu. Ça exalte Dieu. Ça élève, ça magnifie la justice de Dieu. Alors que le Seigneur nous donne sa grâce, parce que c'est seulement par sa grâce que nous pouvons dire dans les situations difficiles, tu es juste dans tout ce qui m'arrive, car je sais que dans cette épreuve, Si je l'accepte comme venant de ta bonne main, cela produira en moi un fruit paisible de justice. Je ressemblerai de plus en plus à ton Fils et tu seras glorifié. Et troisièmement, vous savez, reconnaître que Dieu est juste dans tout ce qui nous arrive exalte Dieu, expose le péché, mais encourage aussi la sanctification. Vous le voyez? Israël dit, pour tout cela, nous contractâmes une alliance. Puisque pour Israël, Dieu est juste, Israël va reconnaître justement cette belle vertu. Israël élève cette vertu de Dieu sans le critiquer, sans l'accuser. Non, tu es juste. Et maintenant, ils se sentent interpellés d'imiter Dieu, leur Dieu juste et droit, Dieu qui garde son alliance. Eux autres aussi, ils vont faire une alliance avec Dieu. Et je ne veux pas voler le punch de celui qui va enseigner le chapitre 10, mais lisez le chapitre 10, vous allez voir comment dans cette alliance, Israël s'engage à marcher dans la droiture et dans l'intégrité. Nous aussi, on va être juste parce qu'on reconnaît la justice de Dieu. Et quelle belle manière de cheminer dans la sanctification. Il y a eu la conviction du péché, il y a eu la confession du péché, et maintenant nous avons la consécration. Une alliance en bonne et due forme, où est-ce que les bottines vont suivre les babines, comme on dit. Alors, connaître la justice de Dieu, ça nous amène au chemin de la consécration. Je termine avec ceci. Alors, ce sont les riches bénédictions qui nous reviennent quand nous embrassons la justice de Dieu. Ça exalte Dieu, ça expose le péché, ça encourage la sanctification. Mais il y a une qui reste. Reconnaître la justice de Dieu éveille la conscience et mène à la conversion. Et là, je vous ramène, il y a presque 2000 ans. Sur le mont de Golgotha. Il y a un homme qui est suspendu sur une croix. On l'appelle le bon larron. Mais lui, il sait que dans son propre cœur, il n'est pas bon. Dans son âme et conscience, il est convaincu de son péché. Et écoutant ses paroles, il va dire à son ami là, qui, justement, accusait le Christ d'injustice, parce qu'il a dit, si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Tu n'agis pas correctement. Mais cet homme ici va reconnaître la justice de Dieu à travers la justice des hommes. Il va dire, pour nous, c'est justice parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il savait que Dieu est juste. Et il subissait justement à travers la justice des hommes, le juste jugement de Dieu pour ses crimes. Mais il y a un autre aussi, qui est suspendu à côté de lui, sur une croix, le Christ, le Fils de Dieu, le Saint et le Juste, qui est en train de subir l'injustice des hommes. Et cet homme ici, le larron, là, il est remarquable. Et là, il va tourner vers le Christ, il va dire ceci, « Celui-ci n'a rien fait de mal, et il demande à Christ, « Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Trois choses. Il regarde la justice de Dieu personnifiée dans le Christ. Il regarde le Christ, celui-ci n'a rien fait de mal. Il est là, on le maltraite, on l'a craché sur son visage, dans son visage, on l'a couronné d'épines, mais il est juste. Il reconnaît aussi la justice de Dieu. Christ qui meurt pour satisfaire les exigences d'un Dieu saint face au péché. Ça, c'est la justice de Dieu. Et aussi pour sauver des pécheurs. Dans sa justice, le péché devrait être puni. Et la justice de Dieu exige justement que le péché soit puni et Christ vient pour satisfaire à la justice de Dieu et là on va le reconnaître. Et troisièmement, il reconnaît la justice de Dieu parce qu'il va dire au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il sait que la croix, ce n'est pas la fin pour le Christ. Le comble de l'injustice aurait été que Dieu laisse Christ au tombeau. Ce serait l'injustice. Mais il dit, « Tu vas venir dans ton règne. » Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et parce que Christ a satisfait pleinement aux exigences de Dieu sur la croix pour le péché, la justice de Dieu triomphe et Christ est ressuscité. Et la larme, il a saisi aussi. Et quelle récompense est importante de la part de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle conversion, hein? Reconnaître la justice de Dieu, ça mène à la conversion. En extrémiste, mais il est rentré. Et ce matin, je termine avec ceci. Si vous n'êtes pas sauvé, alors tournez-vous vers le Christ. Donnez-lui raison. Confessez votre péché, comme Israël, j'ai fait le mal. Mais implorez aussi les compassions de Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. Dieu vous sauvera, fera de vous son enfant. Il vous amènera sur le chemin de la vie éternelle où vous pouvez vous consacrer totalement à lui, ce qui est tout à fait juste. Après tout ce qu'il a fait pour vous, le pécheur sauvé et consacré, rempli et accompli aussi la justice de Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Merci d'être ce Dieu qui est juste dans toutes ses voies. Seigneur, tu connais nos cœurs et nous voulons nous humilier sous ta main puissante ce matin afin que tu nous élèves au temps convenable. Alors fais une œuvre dans chaque cœur ce matin face à ta justice, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui ont le cœur brisé et contrit, afin que tu puisses déverser sur nous tes riches bénédictions comme tu as déversé sur Israël. Alors, relève-nous, restaure-nous, fortifie-nous et accomplis ton œuvre à travers chacun de nous. Demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.